Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 17 juillet 2019, de 18h à 21h, réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, deuxième partie de cette émission de la réplique, puisque dans le cadre de ce libre journal de résistance française, nous appelons plutôt depuis des années cette émission comme une émission de la réplique, et je vous avais pu vous en rendre compte, c'est le programme que nous essayons de tenir, ce programme de réplique. Alors maintenant, nous rentrons dans l'actualité politique. Nous allons aborder cela tout au long de cette deuxième partie d'émission. Merci à Franck, la technique. Merci aux dames qui prendront les messages. Et nous sommes autour de cette table, je le rappelle, Jeanne Smith, Cécile Montmirail, Guillaume de Thulois, Jérôme Triomphe et Pierre Henry. C'est-à-dire que l'équipe de la réplique est au grand complet. Il manque Hortense Sauveur, mais il n'y aurait pas de micro pour elle. On devrait se promener donc, d'un micro à l'autre. La journée a été marquée par la démission de François de Rugy. Ben là, je ne verserai pas de larmes. Parce qu'enfin, tout de même. Dieu qu'ils sont bêtes. Lui, il est condamné. Omar m'a tué. Ben oui, Omar l'a tué. Alors, vous vous souvenez de cette inscription du sang de Madame
Marshall.
De
Marshall. Ghislaine Marshall, oui.
Omar m'a tué. François Foucard a admirablement combattu sur cela à cette époque. Mais là, Monsieur de Rugy. Monsieur de Rugy qui, donc, pour se défendre, d'avoir servi des gros homards et des bouteilles de vin comme on ne s'en paiera jamais. Pour se défendre de cela, il dit « Mais j'aime pas les homards et je bois pas. » Crétin, va. Mais crétin, au moins qu'il aurait eu le panache d'assumer. Ben oui, pour mes copains, je voulais de bons homards. Et pour mes copains, puisque j'en avais les moyens, j'étais allé chercher de bonnes bouteilles.
Enfin, j'en avais les moyens, j'avais les moyens, nos moyens à nous.
Oui, mais bien entendu. Mais enfin, voilà, au moins un peu de panache, un peu de descente.
Que ce ne soit pas perdu pour tout le monde.
Que ce ne soit pas perdu. Parce que, enfin... qu'est-ce qu'on en aurait fait de ces malheureux homards, hein ? On les aurait mis au congélo, voilà. Alors lui, il s'en va, mais ce jour-là, ce même jour, aujourd'hui, je reçois le livre noir des gaspillages, sous-titré « 100 gaspillages hallucinants payés par nos impôts », signé de Jean-Baptiste Léon, qui est donc le directeur des publications de contribuables associés. Et là-dedans, je trouve aussi la dépense, une autre dépense de François de Rugy. Voyez-vous, il était épinglé avant que son affaire ne sorte. Un petit bouquin comme ça, ça ne s'imprime pas en 48 heures. Et évidemment, alors là, on rappelait que ce bon écolo adorait les édicos. Et c'est ainsi qu'il est venu dans les Pyrénées pour annoncer la venue de deux braves ours slovènes. Hein, voilà. Et qu'il a pris pour cela un hélicoptère. Ensuite, il a pris un avion pour le ramener à Bordeaux. De Bordeaux, je ne sais pas s'il a été boire des grands crus à Saint-Émilion ou ailleurs.
Non, ça lui donne mal à la tête, Bernard, n'oubliez jamais.
Ah oui.
Ah oui.
Et puis les crustacés, ça lui donne de la goutte.
Il est allergique.
Voilà. Et donc, voilà. Donc là, son porte-parole s'était opposé aux chiffres donnés par un hebdomadaire, je ne citerai pas, voilà, de 1 million d'euros, mais son porte-parole avait dit que la journée n'avait coûté que 350 000 euros. Alors tout ça là pour annoncer la venue de deux ours slovènes. D'ailleurs, moi, je ne suis pas tellement anti-ours parce que c'est mon animal totem. Hein.
J'espère bien.
Je m'appelle Bernard, ce qui veut dire fort comme l'ours. Je ne suis pas fort comme l'ours.
Mais poilu comme un ours.
Jérôme, ne faites pas d'indiscrétion. Voilà pour François de Rugy, qui donc, je pense, est politiquement mort. Mais enfin, on ne sait jamais.
Parce que... qui paye surtout le combat de chevalier blanc de la transparence et je ne sais pas quoi encore, parce que comme tous ces gauchos libertaires, il a jamais eu assez de mots durs contre François Fillon et d'autres. Mais évidemment, comme disait un homme politique célèbre, pour monter au mois de Cocagne, il vaut mieux avoir les fesses propres.
Alors, pas avoir le caleçon braineux.
Mais le homard vaut-il le costard ?
Il nous rappelle effectivement Jérôme Cahuzac aussi. Ils sont admirables, ces grands vertueux de la République. On les voit d'ailleurs, ils prennent des accents, des choses là, comme à la Convention, c'est ils ça. Défendent la vertu, et puis après, plop, ça s'effondre d'un coup. Et là, ils sont misérables, misérables, misérables.
Mais j'ai une question. C'est bon le homard ? Parce qu'en fait, pour ma part, j'en ai jamais mangé.
Ah, mais Jérôme,
je ne mange que du kebab. C'est si bête Diane qui l'a dit.
Ah oui, c'est l'admirable, l'admirable porte-parole du gouvernement.
Elle a dit que les Français mangeaient du kebab.
J'étais plus habitué. Les Français ne sont pas habitués au homard, ils sont plus habitués au kebab.
Au kebab, voilà. On est pas jambon beurre, mais non.
Et alors, c'était à l'appui de quelle argumentation ?
C'était pour protester contre le comportement inadmissible de François de Rugy. Elle a dit que la plupart des Français ne mangent pas de homard,
ils mangent du kebab. Comprenons l'émotion des Français qui sont plus habitués au kebab. Quoi.
Oui. Cela dit, quand on se promène dans les provinces françaises, c'est quand même malheureux, quand on arrive un peu tard dans un village, le seul truc que l'on trouve d'ouvert, c'est toujours le kebab local. Alors je dois dire pour la vérité que nous préférons encore jeûner que de nous arrêter dans un kebab. Mais...
Et pourtant, vous qui avez si bien connu la Turquie.
Et pourtant, nous qui avons connu la Turquie. Mais c'est quand même remarquable la quantité de kebab qu'il y a en France.
Oui,
bah, dans le moindre village reculé de Bretagne, il y a le kebab.
Oui, bah c'est toute la diaspora turque s'y emploie. Généralement, ce sont les Turcs. Hein,
mais kebab n'est pas un nom breton ?
Ah,
kerkebab. Un kerkebab. Mais il n'y avait pas que le kebab, non, les homards. Il y avait aussi une histoire qui m'a fait beaucoup rire de sèche-cheveux.
Ah, le sèche-cheveux plaqué or de chez Dyson.
Oui, doré à la feuille d'or.
Oui, oui.
Voilà. Ce qui est tout de même fabuleux.
Mais il faut dire qu'avec une femme blond platine, c'est normal.
Oui, alors on ne sait pas très bien si ça indique des goûts de luxe ou des goûts de parvenu beauf. Mais c'est, voilà, c'est au choix.
La réponse est claire.
La réponse est dans la question.
Dans la question.
Oui.
Voilà, alors on va en rester là pour François de Rugy, ça suffit parce qu'on lui a fait quand même beaucoup d'honneur.
Mais il a offert un costard. Il a laissé le sèche-cheveux, a-t-il dit.
Ah.
Oui, à 499 euros.
Oui, voilà le genre d'instrument dont j'ai pas trop besoin.
Mais vous parliez d'hélicoptère, Bernard, c'est une grande spécialité des écolos, le vol en hélicoptère. Parce que le précédent que Rugy a remplacé, Nicolas Hulot, avait été lui aussi épinglé pour sa surconsommation des déplacements en hélicoptère. Yann Arthus Bertrand, le fameux photographe, était un grand maniaque de l'hélicoptère.
Oui,
c'est leur grand truc, en fait.
Pour prendre ses photos, sinon, lui, il avait peut-être une excuse.
Les drones photographiques n'étaient pas encore au point à l'époque. Ouais. Mais en tout cas, ils nous coûtent cher.
Alors... Le 14 juillet, l'équipe d'Algérie qui triomphe. Là, on est...
Vous pourriez employer
un autre terme.
Mmh. Ah oui,
pardon.
Vous me parliez.
Pardon. Non, cher Jérôme Triomphe. Non. Le triomphe, la célébration du triomphe de l'équipe d'Algérie. Et là, nous en avons gros sur la patate. Parce que c'est notre France humiliée. C'est la déferlante de gens orgueilleux, dominateurs. Alors, j'ai écrit sur mon blog, imaginons ce qui se passerait en Algérie si des franco-algériens ou des algéro-français, eh bien, il y en a à voir, s'avisaient de célébrer la victoire d'un match de l'équipe de France en saccageant des boutiques. En renversant, parce qu'il y a eu un crime, une voiture, etc. Faisait de telles choses en Algérie, saccager, piller. Eh bien, on imagine ce que ça donnerait. D'abord, je dois dire que là, le peuple algérien, très formaté qu'il est par rapport à la France, là, réglerait ses comptes. Ça serait abominable. Et puis ensuite... Là, ceux qui auraient comme ça brandi le drapeau français en Algérie, eh bien, ils ne seraient pas prêts de sortir de prison. Puisque, je le rappelle, des jeunes gens, il y a quelques années, qui en avaient assez de ce régime bouteflice bouteflitesque avaient manifesté au cri d'Algérie française à Oran et à Beaune. Ils ont été immédiatement appréhendés et on n'a plus aucune nouvelle d'eux. Sont-ils sortis ? Je n'en sais rien. Mais voilà, nous, nous acceptons tout. Et faut-il dire aussi, ceux qui ont été interpellés, relâchés presque aussitôt. Or, c'est, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une descente dans nos rues visant à humilier le peuple français pour dire ici, nous sommes les patrons. Et cela est inadmissible. Donc, combien de temps tolérerons-nous ces choses-là ? Alors, voyez-vous, nous apprenons que trois bons militants identitaires ont été arrêtés et puis jugés et on demande contre eux des peines de prison ferme. Pourquoi des peines de prison ferme ? Parce qu'ils ont voulu s'opposer à l'occupation du Panthéon par une faune de gens...
De clandestins.
Alors, peut-être manquait-il un peu de culture, mais on est solidaire d'eux, parce que le Panthéon, hein, ils auraient pu...
Ils devaient défendre Sainte-Geneviève, ils ne savaient pas que c'était passé à Simone.
Voilà. Donc, n'insistons pas sur cela. Mais, donc, voilà, trois jeunes Français qui s'opposent à l'occupation d'un monument français qui a été une vénérable église, on demande pour eux des peines de prison ferme. Et en cela, évidemment...
Ils s'opposent d'ailleurs à des gens qui sont hors la loi.
Absolument.
Et qui ne sont pas traités comme tels par la police. Absolument. Donc ça veut dire que ce sont des Français qui sont obligés de faire le travail de la police, la loi, et qui sont condamnés parce qu'ils essaient de faire appliquer la loi. C'est un pays, heureusement,
ils ne sont pas encore condamnés, mais ce sont les réquisitions qui ont demandé la... Voilà.
C'est ce qui est arrivé à Olivier Figueras, mon mari, qui cherchait à rejoindre la rue du Bac à un moment où il y avait une manif de sans-papiers. Un gendarme l'arrête. Il dit « Vous ne pouvez pas passer ». « Si, monsieur, j'habite là, j'ai besoin de passer. Vous avez vos papiers ?» Il sort ses papiers et le gendarme lui dit « Non, vous ne passez pas. Ici, c'est une manif de sans-papiers. Vous avez des sans-papiers, vous partez.
» Non mais c'est dingue.
Mais il fallait qu'il dise qu'il n'avait pas de papier.
Il n'a pas eu la présence d'esprit. Il aurait dû dire oui, je n'ai pas de papier.
Je mais suis
il
savait, sans papier.
Il ne s'attendait pas à cette réponse quand même.
Il a qu'à dire qu'il était des Carpates. Il est quand même très poilu lui aussi.
N'allons pas dans les détails, cher Jérôme Triomphe.
Oui. Donc oui, soutien à ces jeunes en tout cas.
Bien sûr.
Qui
bien
ont, sûr. Panthéon ou pas, fait preuve de courage. Et il va leur en falloir encore devant nos tribunaux.
Devant leurs tribunaux. On est...
Oui, leurs tribunaux.
C'est pas rendu en mon nom. Hein. Je précise tout de suite que la justice est peut-être rendue au nom du peuple français, mais pas de moi.
Juste remarque,
non, de la
cher Guillaume.
Française.
Non, du peuple français. Mmh. Bon. Ouais, qui est très très loin de ces
considérations. Oui, qui est rarement consulté sur la manière dont la justice est rendue en France.
La justice n'est pas rendue en France. Elle n'est rendue que par exception, par des magistrats rares et courageux qui sont une espèce minoritaire, je le dis.
Insupportable d'ailleurs d'entendre des hommes politiques proférer sans arrêt « Je fais confiance à la justice de mon pays ».
Non, c'est au contraire, ça montre qu'ils sont abrutis comme pas possible. C'est à ça qu'on reconnaît un imbécile, vous savez bien. C'est celui qui fait confiance dans la justice de son pays. Il faut quand même n'avoir jamais touché du doigt la justice, enfin ce qu'on appelle la justice, ce qu'on devrait appeler l'institution judiciaire pour lui faire confiance.
À propos de justice, comme on parlait il y a quelques minutes de François de Rugy, je vous pose la question, mais sans savoir, vous savez, ce sont les fausses questions comme à l'époque de l'ORTF, à l'époque de Gaulle, qui on m'a demandé tout à l'heure dans la salle alors que la question ne lui avait pas été posée. Mais là, je vous la pose parce que la dénonciation de Rugy vient de Mediapart. Et ça, vous auriez peut-être quelques mots à dire, parce qu'on croise à la fois le thème judiciaire et puis Edwy Plenel.
Oui. Alors là, je dois dire que Mediapart, fondée par Edwy Plenel, est devenue une institution. C'est devenu une institution.
Et un supplétif du parquet, même.
C'est le parquet qui est un supplétif de Mediapart.
Oui, pardon, c'est vrai.
Donc,
c'est vrai.
Là, nous allons, d'ailleurs, nous avons décidé hier, en comité de rédaction de Reconquête, hein, de faire notre une, et donc les articles qui iront avec, sur le rôle de Mediapart. Parce que là, tout le monde tremble dans cette République. Donc là, nous sommes donc sous une inquisition, hein, les inquisiteurs de Mediapart. Alors, pour ma part, je l'ai souvent raconté ici, les auditeurs de Radio Courtoisie le savent pour beaucoup, d'autres peut-être pas, mais moi, j'ai eu affaire à Edwy Plenel. Il m'avait diffamé sur toute une page du journal Le Monde. Et j'étais un homme fini, parce qu'un article d'Edwy Plenel, mais à l'époque, il n'était pas à la tête de Mediapart, il n'avait pas encore fondé cela.
Mais il n'était même pas à la tête du Monde, on est dans les années 83, 84, par là.
Alors, je ne vais pas, peu importe Bernard Antony, mais moi, je sais que j'ai connu ce personnage devant lequel tout le monde tremble. Alors, à l'époque, je n'avais pas Jérôme, il était tout petit encore. Il est grand, mais il était tout petit à l'époque. C'était Georges-Paul Wadner, mon avocat bien-aimé, vénéré. Donc là, je suis allé le voir, il m'a dit « on va se battre hein ». En attendant, j'avais dû démissionner de mon emploi, hein, mais nous nous sommes battus et j'ai fait un livre sur cela, « Traquenards et tribunaux ». J'ai raconté, alors Plenel, je l'ai connu à la 17e chambre, et je lui disais, allez, Plenel, regarde-moi dans les yeux, toi le Trotskar, parce que là, voilà donc comment nous considérons M. Plenel. Nous ne plions pas devant ce genre d'individu, bien évidemment. Mais ça a été long. Il a fallu que je bataille. Alors, tout cela pour dire que Mediapart dénonce, certes, mais cette espèce de vénération qu'il y a dans les médias, pour Mediapart, Mediapart est là, on dirait, c'est la Tchéka, quoi. Hein, donc j'ai employé le mot d'inquisition, c'est l'inquisition tchétiste. Donc voilà, il y a là un devoir de liberté aussi de dire merde à Mediapart. Hein, et je répète cela, parce que c'est intolérable. Alors, qu'il dénonce des malandrins de la République, soit. Mais pourquoi ?
Quand c'est fondé.
Quand
c'est pas toujours fondé.
Et c'est pas toujours fondé, Pierre-Henri.
Oui, parce qu'il y a eu la parution d'un grand dossier dans le journal du dimanche cette semaine sur la fameuse affaire qui avait été divulguée par Mediapart et par Fabrice Arfi, qui est, je crois, le rédacteur en chef, qui est le numéro 2 derrière Plenel, sur les hypothétiques collusions au sujet du financement de la campagne de 2007 entre Sarkozy et Kadhafi. Donc le journal du dimanche a sorti un grand dossier tendant à démontrer qu'il y a derrière toute cette histoire un grand montage et une grande manipulation, ce qui ne serait absolument pas du tout étonnant de la part de... Enfin, quand on connaît les dénonciateurs, quand on connaît ces sens, on les honore. Donc, voilà, chose à suivre de près. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que Sarkozy soit d'une exemplarité morale qu'on ne peut pas lui prêter forcément, mais...
Merci de préciser ça. Oui. Ça vaut peut-être la peine.
On m'avait traité un jour, il y a quelques années, d'outrageusement sarkozyste, ce qu'à Dieu ne plaise, je ne suis pas. Mais oui, voilà, en tout cas, il faut raison garder, essayer d'être honnête, y compris avec des adversaires politiques. Et quand les 10 adversaires sont eux-mêmes calomniés par encore pire, il faut savoir prendre du recul.
Et tout homme persécuté par la justice mérite un tout petit peu de considération.
Ça, c'est l'avocat qui parle, ça. Bon, j'ai quelques exceptions. Hein. Je ne suis pas avocat, Jérôme Triomphe. Hein.
Alors, Jeanne, vous voulez dire quelque chose ?
Rien de spécial.
Guillaume. J'en viens à un autre fait. C'était le colloque organisé en Seine-Saint-Denis par l'association Sauvegarde de Seine-Saint-Denis, une association de protection de l'enfance qui assure, là j'ouvre les guillemets, une mission, c'est ainsi qu'elle se définit, de service public habilité par le ministère de la Justice.
Ça sent mauvais déjà.
Et le conseil départemental, financé d'ailleurs par ce dernier à 85%, qui gère un dispositif de prévention et de traitement des basculements, voyez comme c'est bien dit, de prévention et de traitement des basculements vers les extrémistes violents. Alors, ce séminaire était organisé sous la direction du sociologue algérien Saïd Bouamama.
Ah, notre vieux copain.
Vieil ami Saïd Bouamama.
Voilà.
Alors pour mémoire, bah, peut-être que Jérôme Drian va rappeler qui est Saïd Bouamama.
C'est l'éminence grise des indigènes de la République et Doria Boutelja, une autre grande amie.
Alors on en a souvent parlé ici.
C'est l'auteur principal, c'est l'auteur exclusif d'ailleurs des textes du petit opuscule du pensum Nique la France, où il explique grosso modo, pour synthétiser, que, dans lequel il oppose les blancs aux noirs, arabes et musulmans. Voilà, comme si tous les noirs et les arabes étaient musulmans.
Et vice versa.
Et vice versa. Enfin bon. Et voilà, donc c'est l'éminence grise.
Alors je vous recommande, pour vous faire rire, d'aller chercher sur internet l'enregistrement audio d'une dispute, je crois que c'était dans une émission radio, je ne sais plus sur quelle station, entre Saïd Bouamama, je crois que c'était lui, et Alain Finkielkraut, qui dérive en dispute hystérique entre les deux. Les deux hurlent à s'époumoner, à s'en casser la voix.
Historique ou hystérique?
Non, hystérique, hein, hystérique. Bon, historique non, peut-être pas, mais hystérique oui. Et l'un des deux quitte le plateau au bout d'un moment. C'était assez amusant. Donc,
ça peut être Finkielkraut.
Je crois que c'est Finkielkraut.
Il est assez sanguin quand même.
Oui, il était. Voilà, là, il était un peu énervé, je crois. Mais il y a de quoi.
Oui, oui.
Vu
alors,
l'animal en face, il y a de
alors,
quoi.
Alors attendez, il faut ajouter, mais on va revenir à Saïd Bouamama, peut-être à Finkielkraut, pourquoi pas. L'association, tenez-vous bien, financée par le... prend en charge les personnes signalées radicalisées. L'association prend en charge...
Ah, mais c'est bon, si c'est radicalisé, on sait ce que c'est.
Les personnes signalées radicalisées ou mises en examen en Seine-Saint-Denis, voire condamnées pour des faits de terrorisme.
Oui, parce que je fais une parenthèse, quand vous lisiez le début, le basculement
oui,
vers des...
Basculement.
La prévention du basculement vers des extrêmes violents, on se disait, eh ben, il ne parle pas d'extrême droite, donc ça doit être autre chose. Parce que sinon, il le dirait. Et ben voilà, mais radicaliser, c'est le... C'est
voilà
le,
donc, pour
on a
lutter
tout compris.
Contre la radicalisation.
Voilà.
L'alter ego de Ouria Boutelja. L'homme qui a écrit « Nique la France ». Je rappelle que l'opuscule « Nique la France », c'est du texte abscon de Saïd Bouamama, qui est sociologue, comme moi je suis...
Archevêque, c'est pour dire.
Comme je suis archevêque. Et c'est pas
c'est
tout
bien
de suite,
dommage d'ailleurs, oui. Parce que vous feriez certainement du meilleur boulot.
Voilà. Et donc là...
Que Bouamama
je rappelle que dans « Nique la France », la photo centrale, c'est une photo... d'un militant qui fait, comme toutes les photos qu'il y a dans ce bouquin, tout le texte de Bouamama est illustré par des personnages qui font un doigt d'honneur. Vous voyez bien ce que ça veut dire symboliquement. Et là, il y en a un qui a le t-shirt Action Directe. Hein. Donc Saïd Bouamama a accepté qu'au cœur de son livre, il y ait soutien à Action Directe, c'est-à-dire soutien à un groupuscule d'assassins. Hein, d'assassins infâmes.
Oui, mais c'est des assassins qui ne sont pas violents, c'est des assassins modérés.
Déradicalisés.
Déradicalisés. Oui,
oui. Voilà. Donc,
qui n'ont pas basculé.
Là, qui n'ont pas basculé.
Chaque jour,
ils sont dans le basculement.
Chaque jour, on se pince, et hélas, parce qu'on se dit...
Et on se pince comme les homards.
Pardon. Donc, voilà. Alors, Saïd Bouamama, qui est présenté d'ailleurs comme directeur de ce séminaire, comme chercheur encadrant le versant sociologique de la recherche du comité interministériel de prévention de délinquance. Chercheur sociologique, moi.
Ah, mais attendez, le comité interministériel, il
encadre un comité
officiel.
Oui, oui, il encadre un comité interministériel. Ouais, c'est fabuleux.
C'est beau comme l'antique. C'est fabuleux, mes enfants, si vous permettez. Quoi. Parce que,
un comité ministériel entre Rugy, Cahuzac et.
Non, et surtout.
Et qui d'autre encore?
C'est bien l'État français, avec votre argent, emploie des ennemis de la France. Et pour déradicaliser les gens qui viennent d'ailleurs du même pays qu'eux.
Bouamama, qui s'était vanté à l'audience de la cour d'appel de Paris, où on plaidait contre Nique la France, Bernard était là, d'avoir toujours refusé de demander la nationalité française. Voilà, parce que la France est raciste, comment ils disent ça, de manière systémique.
Oui. De manière systémique.
Hein, voilà.
Racisme structurel ou systémique, absolument.
S'il n'est pas content, on ne le retient pas. Hein.
Comme dirait Trump.
Ça y est.
Exactement. Nous sommes un beau et glorieux pays. Ceux qui ne l'aiment pas peuvent aller voir ailleurs ce qu'il a tweeté hier.
Non, parce que c'était quand même formidable. Le gars, il disait non, je refuse de demander la nationalité française.
En revanche, je veux bien du pognon français quand même.
Non, mais c'est ça. Il vit chez. Bon, voilà. Bon. les choses sont dites. Hein.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, donc il veut bien du pognon français, parce qu'il est assistant de sociologie à l'université de Lille. On lui donne comme ça.
Je ne sais même pas s'il est à l'université de Lille.
Oui, oui, mais
dans un institut, je ne sais pas, vérifier ça.
Mais, oui, mais il ne manque jamais d'institut, de comité, etc. Pour donc, voilà pour ce qui est de M. Saïd Bouamama. Je ne m'attendais tout de même pas, je dois dire, à le trouver dans l'institution à ce point. Hein. Alors, qu'il refuse la nationalité française. C'est très bien, d'ailleurs.
On
est bien d'accord. C'est cohérent. Mais, au moins, c'est cohérent.
Au moins, c'est cohérent. Mais ça serait très cohérent qu'il l'aille.
Qu'il dégage.
Voilà.
Il vit dans un pays qu'il n'aime pas. C'est quand même embêtant.
Oui.
Oui, alors, mais ce n'est pas étonnamment le seul des pseudo-sociologues des indigènes de la République à avoir non seulement accès régulièrement aux grands médias, à avoir des emplois dans certaines de nos Sorbonnes. Je pense en particulier à Nassira Guénif, qui est dans le même discours gaucho-FLNO anti-français, et que l'on voit très régulièrement dans les colonnes des quotidiens de référence comme Le Monde ou sur les plateaux de télévision. Donc non, ces gens-là ont micro ouvert, sans que ça pose visiblement trop de problèmes.
Il est membre de l'IFAR, qui est l'association Intervention, Formation, Action, Recherche. Voilà. Et il y est chargé de recherche et formateur de travailleurs sociaux et de PHARE pour l'égalité, Praxis, Histoire, Action, Recherche, Éducation Populaire pour l'égalité. Organisme d'intervention sociologique qu'il a cofondé. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec une université. Hein.
Non, c'est un organisme.
C'est un
de
organisme
quoi
de formation.
D'action sociologique.
Ben,
de
l'IFAR,
ça ne veut rien dire.
Intervention, formation, action, recherche et formateur pour travailleurs sociaux. Donc en fait, il a monté une boîte manifestement de formation. Il va faire des petites formations.
Une structure aussi opaque qu'un kebab.
Papier, hein. Là,
mais il est
un gros feutre.
Il est présenté dans le bulletin de la France comme assistant de sociologie. Mais pourquoi pas, tout est n'importe quoi.
Non, et puis de toute façon, ça sont des titres qui vont et qui viennent. C'est-à-dire il est très facile de se prévaloir d'un pseudo-titre universitaire qu'au final, on a occupé même pas 6 mois. Mmh. Et après, on le laisse sur son CV.
Comme Benalla, qui se vante d'avoir été chef scout chez les scouts
oui,
de France à 15 ans, alors qu'il a passé 2 semaines en camp à 12 ans.
À 13 ans.
Et qu'on ne peut pas être chef avant 15 ans.
Oui, il a publié des photos de son retour de week-end scout. Ouais, en effet, le scoutisme mène à tout, visiblement.
En liaison toujours avec la question de l'immigration, donc là, des chiffres sont tombés. Alors, un très mauvais titre dans un journal, je ne citerai pas, « Les immigrés EES contribuent à la natalité très forte de la France ». Le mensonge est là. Mais en dessous, il y a des chiffres tout à fait intéressants. Le taux de fécondité est de 1,8 enfants par femme pour les Françaises et de 2,6 pour les immigrés. Et à partir de ça, toute une étude sur les chiffres. Donc, natalité très forte pour la France, évidemment non, puisque on le sait fort bien, pour remplacer tout simplement les générations, il faut au moins un taux de fécondité de 2,1. On ne va pas rentrer dans la subtilité de tous ces chiffres-là, mais aujourd'hui, donc, le taux de fécondité de 1,8 est dû au fait qu'il y a, pour les femmes d'origine émigrée, un taux de 2,6. Ce taux de fécondité supérieur des femmes immigrées contribue au chiffre final. En dehors du fait que qu'est-ce qu'on appelle femmes immigrées. Et c'est là que, donc, première génération, deuxième génération...
Où est-ce qu'on s'arrête ? Si le taux de 1,8 prend en compte les descendants d'immigrés de première, deuxième et troisième génération, et l'autre taux ne prend en compte que les non-naturalisés, ça veut dire que le taux des Français de souche, il est encore plus bas qu'à 1,8.
De mémoire, j'ai regardé le rapport lui-même, parce que les chiffres n'étaient pas très cohérents dans la presse. Je crois que c'est 1,88 le taux global, mais pour les Françaises d'origine d'origine, c'est 1,67. C'est pas 1,4. Il y a eu une erreur de retranscription. C'est 1,67 pour les femmes françaises.
C'est pas brillant.
Et ça n'est pas brillant. Et c'est pour les immigrés, c'est effectivement de l'ordre de 2,6
oui,
en première génération.
C'est le chiffre de 1,8 qui est la résultante.
Non, c'est 1,88 qui est la résultante. Et les femmes françaises, c'est largement en dessous. C'est
1,67. En tout cas, un motif de satisfaction. À nous six autour de cette table, nous avons 16 enfants, ce qui fait un taux de 2,6.
Voilà.
À peu près.
Vous êtes bon,
nous sommes toutes des immigrées, c'est ça? dans mon cas, oui.
Mais nous ne les avons pas eus tous les six ensemble. Hein. On est un peu réactionnaires.
Ça en ferait moins, de toute façon.
Et nous les avons eus avec des gens du sexe opposé, c'est quand même curieux.
Non mais il est en tout cas évident pour... Pour revenir à un propos sérieux, désolé Jérôme, que l'enjeu démographique, c'est l'enjeu du siècle à venir. En tout cas, pour l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, mais ça fait des décennies et des décennies que Bernard et d'autres le répètent, le prévoient, le sentent venir, et puis une fois que les faits sont là, eh bien continue de le dire, c'est l'enjeu principal pour des pays comme la France, comme l'Italie, dont les taux sont encore plus bas que le nôtre, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, l'Espagne.
Et la différence étant qu'en Italie, on commence à trouver que c'est un sujet, alors qu'en France, on se gargarise de soi-disant d'excellents chiffres. On continue à faire rentrer quand même 400 000 immigrés par an en France. On continue à avorter plus de 200 000 enfants par an. Il y a des pays qui se disent c'est pas forcément une très bonne idée de se suicider en direct. On peut peut-être aussi réfléchir à la survie.
C'est oui, cela dit, le Japon, la Corée, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, ils se suicident. La Grèce, en direct, ils continuent de le faire.
Bien sûr, mais il est possible aussi de revenir, la Hongrie de Orban a changé la courbe de sa démographie. C'est possible, et c'est une volonté politique. Aujourd'hui, il y a une volonté politique de se suicider.
En Russie, il y a une timide, on va dire une stabilisation, un frein à porter à la baisse, en gros, timide.
Mais il y a de moins en moins de Russes chaque année.
De moins en moins, mais de moins en moins vite.
Il y a 800 000 Allemands de moins chaque année, 800 000 Espagnols environ, les chiffres sont voisins de moins, et en Russie, la population baisse aussi.
Elle baisse, mais elle baisse de moins en moins vite. C'est ça que je dis que ça, c'est par rapport à...
Un petit début.
C'est déjà un petit début.
Oui, mais le cas du taux d'avortement qui crève
le cas du Japon est un peu particulier, parce qu'en effet, leur population décroît et vieillit. Il y a et ça, c'est d'ailleurs étonnant parce que ce sont des politiques qui sont très souvent faites au niveau municipal. Il y a des politiques familiales qui commencent à être impulsées, c'est-à-dire des primes à l'enfant. Il y a de grandes villes au Japon. Alors, c'est pas le cas de Tokyo, mais c'est le cas de villes, je crois, comme Edo, où il faudra que je retrouve la ville exacte, qui commencent à donner, en fait, des subventions à l'enfant pour inciter les familles japonaises à en faire plus. Et visiblement, dans les municipalités concernées, ça fonctionne plutôt bien, d'une part. D'autre part, le Japon ne fait pas appel à de l'immigration de remplacement.
Absolument.
Et voilà, ça c'est un choix de société. Alors il y a plein d'essayistes qui le mettent en valeur. C'est un choix, mais au moins un choix qui fait que la situation française n'est pas le seul choix possible, tant est qu'on ait été consulté.
C'est vrai, mais le Japon fait appel aux robots, donc on a encore un autre problème.
C'est un autre problème. Sincèrement, si j'avais le choix, je vous laisse deviner ma réponse.
Il faut d'ailleurs dénoncer les politiques qui sont menées actuellement en partie par les gouvernants de Pologne qui, sans le dire, pratiquent les mêmes politiques d'importation de main-d'œuvre étrangère pour pallier à la pénurie et qui... alors qu'aux électeurs, on dit « mais non, nous, on ne veut pas de cela et on s'oppose à l'Union européenne », eh bien, il faut le dire, le gouvernement PiS organise ça également en Pologne, mais il semblerait que les Polonais ne soient pas tout à fait d'accord avec cela et probablement PiS paiera ça lors de prochaines élections.
Alors, j'ai une question, mais qui revient d'un auditeur qui revient au sujet précédent, qui n'est pas inintéressante en fait, donc qui concerne Mediapart. Et alors cet auditeur nous dit, mais sans Mediapart et le canard enchaîné, il n'y aurait jamais eu d'affaire Benalla.
Sans les informateurs qui sont qui donnent les qui balancent des infos à ces canards, il n'y aurait jamais eu l'affaire Benalla.
Il n'y aurait jamais eu ces canards tout court.
Mais il n'y aurait jamais eu ces canards parce qu'en réalité, comme l'affaire de Rugy, enfin, on ne va pas ne me faire croire que c'est pas une source interne qui avait envie de se le faire, qui a balancé les photos des homards et voilà.
La presse d'investigation en France n'est pas une presse d'investigation,
c'est une
plaisanterie.
C'est une plaisanterie la presse d'investigation. On leur balance des infos toutes faites, ils vont faire 2-3 vérifications et puis voilà. Mais c'est pas eux qui vont aller chercher les infos. C'est des gens qui ont intérêt, comme pour François Fillon. Enfin, faut arrêter de se leurrer. C'est des gens qui ont tout intérêt. Les bulletins de salaire de Madame Fillon, excusez-moi, ils viennent d'où? Ils viennent d'où?
Bon. Dans les cas des affaires entre guillemets divulguées par Mediapart, la violation du secret de l'instruction, ça doit vous parler, Jérôme Triomphe.
Ah bah oui.
Que ça.
T'as d'ailleurs, vous savez que le secret de l'instruction, d'où il vient? Mais c'est Jacques Isorni, l'avocat, qui, quand il était député, l'a fait inscrire dans l'article 11 du Code de procédure pénale. Et il s'en est amèrement mordu les doigts ultérieurement. Le secret d'instruction est une vaste plaisanterie, c'est une évidence. D'un côté, Mediapart peut tout balancer, le canard enchaîné peut tout balancer, parce qu'ils sont couverts par le désormais sacro-saint secret des sources de la presse. C'est une disposition très récente. Pendant ce temps, Marine Le Pen, qui ose publier un acte de procédure, tu parles, une commission d'experts psychiatriques pour voir si elle est tout à fait normale parce qu'elle a publié des photos de Daesh au prétexte que c'est prévu dans le code. Combien il y a de dispositions du code qui ne sont pas appliquées sans que personne proteste. Eh bien, ça pose un problème à la justice. Donc, elle est convoquée pour être mise en examen. Hein, parce qu'elle a osé protester qu'on puisse vouloir faire une expertise psychiatrique contre elle. Alors que le secret de l'instruction, je rappelle ce que c'est. Le secret de l'instruction, c'est le fait de ne pas produire un acte d'une instruction en cours qui peut être de nature
influencer les débats,
à poser un problème dans les investigations. Mais communiquer une commission d'experts psychiatriques ne pose aucun problème, évidemment. Donc ça, c'est et à côté de ça, vous avez aussi une autre disposition qui est allègrement violée toute la journée par les procureurs de la République. Le fait que c'est toujours l'article 11, le procureur de la République peut, afin de rectifier des erreurs qui sont données dans la presse et de donner des éléments objectifs, intervenir auprès de la presse dans le but de donner des éléments objectifs et rectifier des erreurs. Molins. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Sans qu'aucun élément ait été donné dans la presse, ils arrivent et ils se mettent en scène et ils balancent des informations que personne en réalité ne connaissait.
François Molins.
Mais c'est entre une autres. Violation de la lettre et de l'esprit de l'article 11 du Code de procédure pénale. Voilà.
Et qui est censé, normalement, dans le cas de violation flagrante, par exemple dans la presse, du secret de l'instruction, qui est censé initier des poursuites, en tout cas pas des poursuites, mais une enquête pour savoir d'où vient la violation.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est le procureur.
Voilà. Donc, et c'est jamais fait. On est bien d'accord. Voilà.
Évidemment. Et il y a des fois où on a envie de porter plainte pour violation du secret de l'instruction, pour vous dire, en tant qu'avocat, moi, j'apprends. De l'apprendre par le juge, par la presse, des informations qui concernent des clients ou des dossiers. C'est quelque chose d'absolument extravagant. Dans l'affaire Lambert, ça a été constamment le cas. C'était pas du secret de l'instruction, mais c'était, on apprenait toujours par la presse les décisions qui étaient rendues sans que les juridictions aient même la décence de nous les envoyer avant, à part une ou deux exceptions près. Donc c'est insupportable parce que la presse est devenue, depuis très longtemps, un quatrième pouvoir et la justice est à genoux nous devant la presse. C'est le président Jean-Marc Sauvé qui porte si mal son nom, qui est le président du Conseil d'État qui a présidé les décisions qui ont condamné Vincent à mort en 2014, qui a créé une cellule communication du Conseil d'État. Et aujourd'hui, la Cour de cassation embraye. Maintenant, il communique auprès de la presse des décisions qui concernent qui? Deux parties. Qui ne concerne personne d'autre. Après, c'est aux partis de communiquer s'ils veulent auprès des journalistes. Eh bien non, ce sont maintenant les juridictions qui communiquent auprès des journalistes, parce que peut-être que ça les met en valeur, ça leur fait du bien.
Dans l'actualité, nous avons eu les scandales du bac. Peut-être pourrions-nous aborder cette chose-là, parce que on a présenté, somme toute, M. Blanquer comme l'homme fort du gouvernement, en quelque sorte, l'homme M. Pierre-Henri.
M. Pierre-Henri, comment vous avez eu une réaction désabusée.
Ne hésitez pas, s'il vous plaît.
Vous êtes tenu de vous exprimer d'une manière humaine.
Articulée.
Là, on tombe dans des sujets un peu infra-humains, parce qu'on en avait parlé lors de la précédente émission. Blanquer, c'est au-delà de la déception. C'est-à-dire qu'il nous a été présenté, il a même, on va dire, leurré, ou donné des espoirs, ou de faux espoirs à des gens de notre famille de pensée, en se disant, tiens, voilà, on a souvent eu l'occasion d'en parler, mais tiens, quelqu'un qui va remettre les savoirs fondamentaux au cœur de l'apprentissage, qui va remettre en valeur le latin, le grec, la culture générale, l'histoire, géographie, les notions civilisationnelles, les humanités, ce qu'on appelait avant les humanités. Bon. Eh bien, en fin de compte, tout ceci tombe à l'eau, puisque ça, je veux dire, sa principale réforme, et la réforme déjà du lycée, et j'avais dit lors de la précédente émission que si on veut véritablement refaire un système scolaire qui vaille la peine d'y envoyer ses enfants, il faut commencer par l'école primaire, qui est un carnage absolu, en tout cas le public et y compris le privé sous contrat. Un peu moins, mais tout de même. Et lui, bon, s'attaque au lycée. Alors, s'attaque au lycée avec une réforme qui va principalement concerner la première et la terminale, et avec, on va dire, une transformation du baccalauréat telle que le baccalauréat tel qu'on le connaît depuis au moins 40 ans, 50 ans, disparaît plus ou moins en tant que tel. Disparaît d'ailleurs au même moment que Sciences Po Paris, on en reparlera peut-être plus tard, vient d'annoncer la disparition de son concours d'entrée. Et ceci n'est pas anodin. Donc, mise en place progressive, septembre, dans deux mois, les premières sont réformées, avec l'apparition donc à la fois d'une partie du bac qui va être sur le contrôle continu, avec des spécialités dont certaines seront évaluées deux fois en cours d'année de première. Et on a trois spécialités en première, on en abandonne une sur les trois, on n'a plus que deux spécialités en terminale. Le reste des épreuves a lieu en terminale, dont une espèce de grand oral, voilà, grand oral, qui est censé avoir lieu à la fin de la terminale, sur lequel nous ne savons rien, sur lequel le ministère non plus ne sait rien. C'est-à-dire, le ministère ne sait pas nous dire si c'est un élève à la fois ou plusieurs élèves, si c'est comme un TPE, les travaux pratiques encadrés qui existaient avant, ou si c'est pas comme un TPE. Alors ça dure 20 minutes et ça se prépare sur un an, mais ça serait mieux que ça se prépare sur deux ans. Mais il n'y a pas vraiment d'heure pour le préparer en première. Donc on va le préparer en terminale, mais il faut le commencer dès la première. Alors tout est à l'avenant. Bon, donc réforme. Et alors, ce qui chatouille les professeurs, c'est que la réforme a été faite, comme toutes les réformes, sans consultation du corps enseignant et des syndicats. Bon, d'accord. Alors, en même temps, alors, c'est là que je me fais un peu l'avocat du diable, quand on consulte le corps enseignant et les syndicats, est-ce vraiment au profit des élèves et de l'institution ? Je ne suis pas sûr du tout. Le fait est que il y a eu des menaces qui ont été tenues, promesses tenues, menaces tenues, de certains professeurs convoqués pour les corrections de bac, de baccalauréat, de première, de faire de la rétention de copies. C'est-à-dire que on vous donne votre paquet de copies de maths, admettons, vous avez 50 copies le paquet, vous devez les rendre pour dans deux semaines, enfin deux semaines après. Et certains professeurs, le jour de la délibération, c'est-à-dire le jeudi, c'était le jeudi 3, je ne sais plus, 3 juillet, jeudi en tout cas, ne sont pas venus. Ou alors ils sont arrivés.
Jeudi 4 juillet.
Jeudi 4 juillet, ne sont pas venus. C'est-à-dire que, moi j'ai été confronté au cas, il nous manquait 100 copies de maths. Dans l'établissement dans lequel je travaille, il nous manquait 100 copies de maths. Donc, 100 notes de maths. Ce qui fait que les moyennes des 100 élèves concernés ne pouvaient, de fait, pas correspondre à la réalité de leur baccalauréat. Alors là, il y a eu une réaction immédiate du ministère. Le ministère a dit, on va forcément finir par avoir les copies corrigées, tôt ou tard, on espère d'ici le lundi, donc c'était le 4, 5, 6, 7, 8, lundi 8 juillet. Donc d'ici là, pour débloquer la situation, à la place des notes manquantes, que les correcteurs opposés à la réforme, opposés à Blanquer n'ont pas rendu, mettaient la moyenne de l'année. Bon. Alors, à partir de là, il y a tous les correcteurs qui n'avaient pas suffisamment de courage pour bloquer leur paquet de copies, mais qui voulaient tout de même manifester leur mécontentement, qui ont dit on ne va pas délibérer sur des élèves dont les notes ne sont pas les vraies notes de l'examen, donc on rentre chez nous. Donc moi j'ai eu, dans un jury de délibération, sur 40 professeurs, il y en a 20 qui sont repartis. Voilà, qui était leur manière à eux de faire grève sans faire grève. Voilà. Sur, il n'y avait que deux profs qui avaient eu, on va dire, le courage gauchiste de ne pas rendre le paquet de copies. Et après, une vingtaine de suiveurs. Mais, en fin de compte, la plupart des copies sont revenues. Alors, sont revenues, ça a entraîné, on va dire, tout un tas de désordres, de retards, surtout de crises d'angoisse pour tous les chefs de sonde qui, eux, ne sont pas dans le jeu et essayent de faire en sorte que les gamins passent leur bac le plus correctement possible. Mais la plupart des élèves ont eu une note avec des notes définitives, des notes concrètes. Tout ça, en fait, on l'a vu mille fois. Mais en attendant, qui en a pâti pendant quelques jours, qui a été pour le moins, anxieux par rapport à ces notes manquantes, ce sont les élèves. Donc les élèves servaient un petit peu de moyen de pression sur le ministère. Est-ce propre? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est le vieil affrontement entre le corps professoral qui est ce qu'il est, et dans le public, il n'est pas forcément de nos idées, et pas forcément de nos convictions, et ce qu'il estime être, non. Une vraie découverte.
Exclusivité pour Radio Courtoisie ce soir.
mais là, je l'ai vu à l'œuvre, et c'est tout de même assez confondant. C'est-à-dire que l'esprit moutonnier et l'absence de bon sens ont concerné, à mon sens, une bonne majorité en fait des professeurs de correction cette année. Moi j'ai été absolument affligé parce que je pars du principe, moi-même n'étant pas de correction, mais je pars du principe que même si le bac est au rabais, il est même plus au rabais, il vaut rien.
Bon, oui,
il vaut rien.
Le seul enjeu c'est de savoir si on aura une mention très bien ou bien. Alors
c'est la mention, mais au moins que les gamins le passent, qui pour la plupart y croient encore un petit peu.
Et puis c'est un passeport,
passage,
c'est nécessaire.
Au moins qu'ils le passent dans de bonnes conditions. Voilà.
Non, mais c'est odieux, ce qu'ils ont fait est odieux.
C'est absolument odieux. Alors après, que la mise en place de la réforme et que la réforme elle-même, son contenu, soit elle aussi odieuse, pourquoi pas, on en discute. Mais en tout cas, oui,
À chaque fois, c'est toujours les privilégiés qui font ce genre de grève et qui posent des problèmes à tout le monde.
Parce que vous voulez dire des fonctionnaires inamovibles?
Oui, c'est ça. Entre la SNCF, la RATP, et les professeurs qui ont des conditions difficiles, certes, d'exercice, mais qui au final ont un statut qui n'est pas sans intérêt, ils viennent emmerder le monde, c'est une chose, et puis des malheureux qui attendent d'avoir, dans l'angoisse quand même, les notes du bac, on l'a tous passé, on le donne aujourd'hui, c'est certain, mais il y en a quand même qui sont sur le fil, c'est des méthodes de voyous.
Et le personnel des centres d'examen qui essayait tant bien que mal de faire en sorte que le baccalauréat se passe dans les meilleures conditions, a été, et ça aussi j'en ai été témoin, a été traité de collabo, puisque Blanquer c'était Pétain.
Oui, forcément.
Bien sûr.
Il faudra qu'on lui dise parce qu'il.
Et Macron, c'est le régime de Vichy. Voilà. Blanquer, non, c'est Jérôme Carcopineau, pour être exact, qui a été ministre de l'Éducation nationale sous Pétain.
Oui, on voit d'ailleurs comment ce gouvernement réagit face à ces lobbies-là. Parce que normalement, un gouvernement normal aurait dû sanctionner très gravement ces professeurs. Et je crois qu'ils n'ont pas été sanctionnés.
Alors on ne sait pas. Blanquer a promis. On avait parlé de deux semaines, en fait, les rétentions de copies étant assimilées à de la grève. Donc, les professeurs concernés auraient eu deux semaines de retenue sur salaire. Mais on ne sait pas si ça va être le cas. Et déjà, ce serait le minimum. Mais on ne sait pas du tout ça va arriver.
Non, mais ils ont le ministère.
Le ministère a tout intérêt à être discret sur d'éventuels engagements de poursuites disciplinaires pour ne pas risquer des mouvements de grève à la rentrée. Hein,
en même temps, avec cette logique-là, il ne faut pas s'étonner non plus que le ministère soit en espèce de co-gestion avec les syndicats et qu'il n'y ait aucune réforme ne soit possible.
C'est sûr.
Mais ensuite, vous dites, Pierre-Henri, qu'il y a des professeurs lâches qui n'ayant pas
vécu,
etc. Il y en a d'autres aussi qui ont été convoqués dans les derniers jours avant, parce que certains professeurs avaient refusé de corriger.
Oui, de prendre les paquets. Au moins, ils n'avaient pas gardé le paquet pour eux.
Ils avaient refusé dans un premier temps de prendre les paquets. Donc d'autres professeurs ont été appelés qui n'ont eu donc que quelques jours pour corriger les copies, donc qui ont demandé à avoir un ou deux jours de plus alors qu'ils ont corrigé nuit et jour. eux ensuite ont été attaqués en disant qu'ils avaient fait obstruction, alors qu'au contraire, c'était des professeurs qui avaient aidé alors qu'ils n'étaient pas prévus et qui avaient travaillé nuit et jour. Donc il y a aussi cela.
Et puis les autres professeurs ont dû les traiter de jaunes ou de collabos, sans doute.
Et puis ensuite, lors des jurys de correction, il y a eu cette instruction de M. Blanquer en disant, mais voilà, il faudra regarder dans les dossiers des élèves pour savoir et pour faire une moyenne, etc. Sauf que dans les jurys, concrètement, ils n'avaient pas accès à ces dossiers parce que les parents peuvent refuser de donner accès à des documents qui sont sur des documents numériques. Et que donc des professeurs ont dit, nous n'avons pas les moyens de créer une note à partir de rien. Et donc on refusait quelque chose qui n'avait aucun sens. Alors... Et eux ont été aussi insultés par leur ministre, en disant qu'ils avaient fait de l'obstruction systématique et c'était une façon, en fait, de s'allier au premier qui avait refusé de donner les copies, alors qu'il y avait là aussi des professeurs qui étaient sensibles à la situation de leurs élèves et qui trouvaient que tout ça ne valait pas le coup. Et donc, c'était désolidarisé des autres professeurs. Ils ont été insultés.
Alors là, c'est peut-être un cas un peu particulier, puisque normalement, alors je vais éviter de rentrer dans des détails trop techniques, mais les dossiers scolaires des élèves sont numérisés sur le portail de la maison des examens du SIEC, donc sur les livrets scolaires, les LSN, les livrets scolaires numériques. Et normalement, alors à moins que la CNIL, la fameuse Commission nationale informatique et liberté, ait donné la possibilité aux parents de faire...
Je confirme.
Ça me paraît extrêmement étonnant, puisqu'en l'absence de livret scolaire, on ne peut pas délibérer normalement.
Eh bien, pas à ce moment-là. Parce que normalement, de par le règlement général, donc le RGPD, on ne peut avoir une gestion des données numériques que pour un but précis. Et que si on ne peut donc pas utiliser sa base de données pour un autre but que celui qui a été déclaré. Donc il était probablement possible d'avoir accès à ces dossiers pour la délibération finale, mais certainement pas à ce moment-là, ça n'avait pas été prévu, et comme la loi est restrictive, eh bien, il ne pouvait pas y avoir accès à partir du moment où les parents n'avaient pas autorisé cette ouverture.
Mais dans la plupart des centres, ça s'est fait comme ça. Les chefs de centre sont allés voir les dossiers scolaires, ils ont vu la moyenne de l'année et ils ont rajouté, ce qui fait que les délibérations ont commencé beaucoup plus tardivement, avec 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard dans certains cas.
Le RGPD est un règlement qui est tellement délirant que c'est objectivement inapplicable. Je ne pense pas que qui que ce soit en France
personne
soit
ne va en
règle avec la loi. C'est pas possible.
Le RGPD, ça n'a rien d'homophobe, je précise, c'est le règlement général sur la protection des données.
N'empêche pas le moindre spam d'ailleurs.
Ni la moindre intrusion de Google dans votre vie privée.
Et qui peut entraîner des sanctions extrêmement lourdes pour n'importe lequel d'entre nous.
Absolument.
Profession libérale, rédacteur, directeur de publication de blog, etc. C'est quelque chose de tentaculaire.
Et tout ce que ça a changé, c'est que maintenant, le moindre site que je vais voir, je suis obligé de tout accepter.
Oui.
Sinon, je ne le vois pas. Donc, je suis totalement à découvert.
Les cookies.
Et deuxième chose, si je veux voir un site aux États-Unis qui m'intéresse, certains journaux, je reçois un petit message, ce site n'est pas accessible d'une adresse européenne, donc c'est un moyen de censure, c'est fabuleux.
Mais voilà, en attendant, ça a été un cafouillage relativement conséquent, la réforme aura lieu, voilà. Alors peut-être que, de manière cosmétique, comme on dit, Blanquer recevra des délégations syndicales, des représentants du corps professoral à la rentrée, histoire d'eux, mais cette réforme aura lieu.
Et elle cafouillera.
Alors il cafouillera, c'est-à-dire ça sera comme avant. Ce sera exactement comme avant, avec une structure un peu différente. Au lieu d'évaluer en fin de terminale, on saupoudrera un petit peu les évaluations en première et en terminale.
Elles seront faites par les professeurs eux-mêmes. Donc
alors,
ça peut faire des disparités de niveau.
Alors, oui.
En fait, c'est les lycées voisins qui. On n'a pas le droit, si j'ai bien compris.
Non. Alors, les évaluations en cours d'année sont faites en interne. Comme d'ailleurs, déjà, il y a déjà des épreuves de BAT qui sont faites en interne dans les langues vivantes. Les compréhensions orales, etc.
Sauf pour les écoles hors contrat,
mais là c'est des questions parfois de moyens ou de voilà. Mais non, là ça va être alors en interne la plupart du temps. Il va y avoir aussi tout un jeu entre les établissements en fonction des spécialités qui sont proposées. Ouais. Vous avez 11 spécialités au total à proposer aux premières, enfin aux fins de seconde, qui vont en choisir 3. La plupart des établissements n'ont pas du tout la possibilité ni en locaux ni en matériel, ni en moyens, ni en personnel, de proposer les 11 en même temps. Nous, on est gigantesques, on en propose 9. Dans des établissements plus petits de Paris que je connais, ils vont en proposer 7. Je crois qu'il y a un nombre minimal imposé par le ministère, je crois que c'est 7. 7 sur 11. Mais en attendant, on ne peut pas faire autrement que faire des jeux d'échange avec d'autres établissements. C'est-à-dire qu'il y a un établissement distant de chez vous de 1, 2, 3, 4, 5 km, dont certains élèves viendront deux fois deux heures par semaine suivre une spécialité chez vous et réciproquement. Donc alors déjà, voilà, ça pose aussi là encore tout un tas d'autres problèmes concernant la sécurité, qui rentre, qui sort, comment on les identifie, etc. etc. Mais ça, ça fait partie d'une gigantesque usine à gaz qu'est la réforme Blanquer. Et derrière, est-ce qu'on peut penser que pourrait en sortir grandi, eh ben, moi, les choses auxquelles je suis attaché, c'est-à-dire vraiment les humanités, les langues, l'histoire-géographie, la philosophie, tout va encore dépendre des chefs d'établissement et de ce qu'ils veulent proposer en termes de contenu. Et là, l'enseignement catholique français aurait quelque chose, aurait une carte à jouer. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas.
Oui, mais Éric Delabarre n'est plus à la tête de l'enseignement catholique.
Il ne tient plus la barre. Excusez-moi. C'est...
Guillaume de Thieulois, vous souhaitiez aborder la question de la loi cybernétique.
Oui, mais ça rejoint la question de la RGPD.
Le
Parlement est,
est
actuellement en train de débattre d'une loi dite de lutte contre la cyber-haine. Étant entendu, évidemment...
Non à la cyber-haine.
Absolument. Étant entendu qu'évidemment, il n'y a aucune définition nulle part, et surtout pas dans le code pénal, de ce que c'est que la haine, tout ça n'a absolument aucun sens.
C'est comme le trouble à l'ordre public, on y met ce qu'on veut, en fait.
Voilà. Absolument. Encore que le trouble à l'ordre public est une vraie jurisprudence, on sait à peu près ce que c'est. Alors que la haine, c'est...
Enfin, elle est très fluctuante selon à qui elle s'applique.
C'est tiré du droit anglais, enfin des législations anglo-saxonnes.
Absolument. Mais donc, on en est déjà à la troisième loi liberticide sur la presse. Hein, je ne parle pas du reste, mais parce que...
Troisième
loi liberticide de Macron.
300e.
Ah non, de Macron. J'étais en train de faire le compte, là.
Non, alors...
Oui, on en est à la 15e.
Et alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il serait souhaité qu'il y ait quelques partis à s'engager à supprimer toutes les lois en acceptant à la rigueur celle de 1881 sur la liberté de la presse, mais toutes les lois subsidiaires, en particulier la loi Pleven, la loi Guesso et autres, devraient normalement, dans un pays à peu près correctement civilisé, disparaître, parce que c'est des lois qui sont des lois d'arbitraire. En fait, c'est concrètement la logique de cette loi sur la cyber-haine, c'est si Madame Boutelgiard, votre copine, notre copine, est les Français, elle a parfaitement le droit. Mais nous, si on dit du mal d'Auria Boutelgiard, on est supposé la haïr, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas à moi. C'est une adversaire politique, clairement, mais enfin, j'ai pas de haine pour elle. Pareil, mystérieuse pour moi, mais ça fait partie des enquêtes ethnologiques. Mais donc, c'est pas du tout de la haine, et pourtant, on peut être condamné pour l'avoir attaqué. Et donc, il y a objectivement une très grave limitation de la liberté de la presse. Alors, je suis pas un inconditionnel du tout de la liberté de la presse, mais enfin, il se trouve quand même que dans un pays qui se dit attaché à cette liberté-là, on n'arrête pas de nous dire que c'est la garantie de la démocratie. La démocratie est en mauvaise santé dans ce beau pays.
La démocratie ne vivait pas plus mal ou mieux avant les lois liberticides,
absolument.
La première de... Enfin, il y a eu le décret Marchandeau, mais ensuite la première de 1972, avant qu'après. Donc, voilà.
Alors, vous avez parlé de trois lois liberticides de la part de M. Macron. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce que se dessine quelque chose?
Alors, en fait, ces trois lois sont écrites de façon très étrange. Elles sont écrites comme si elles n'avaient aucun rapport les unes avec les autres. C'est-à-dire que ça limite de plus en plus toute prise de parole publique. Mais à chaque fois, c'est sous un autre angle. C'est-à-dire que là, c'est la haine. La dernière fois, c'était de rendre responsables les réseaux sociaux et les hébergeurs des propos qui sont tenus chez eux. En fait, j'ai l'impression, je ne sais pas dans quel monde vivent nos dirigeants politiques, mais tout se passe comme s'ils n'avaient jamais compris à quoi ressemblait Internet. Internet, c'est fondamentalement une bibliothèque à laquelle on a accès. C'est de la même façon que dans une bibliothèque, il y a des bouquins qui sont écrits par des auteurs qui vous font vomir. Dans ma bibliothèque, il y a Lénine. C'est pas pour autant que je suis un grand léniniste. Et simplement parce qu'on se documente pour savoir ce qu'il pensait.
Vous vous cachez bien, en tout cas.
Je suis un léniniste infiltré.
On pensait que c'était un infiltré, mais bon.
Mais Mediapart est sur le coup.
Ce qui m'avait donné l'occasion d'ailleurs de dire il y a quelques années, il y a un type qui s'est retrouvé pendant un an en cabane, un libertaire qui s'est retrouvé pendant un an en cabane sans savoir pourquoi, à cause de l'affaire de Tarnac. Là,
un scandale absolu.
C'est un scandale éhonté. Et parmi les argumentaires de libération, je précise, il y avait la preuve que ce type est un terroriste, c'est que dans sa bibliothèque, il y a les œuvres de Lénine et de je ne sais plus quel anarchiste.
Bakounine. Il y avait Bakounine.
On ne peut pas dire qu'il.
Je me suis dit, c'est complètement absurde comme argumentaire. Et en plus, dans un journal ex-maoïste, c'est quand même assez farce. Bon, ceci pour répondre à Cécile. Donc, il n'y a pas de cohérence dans ces lois, mais elles dessinent le principe que. La règle générale, c'est plus la liberté d'expression, c'est l'exception en fait. C'est-à-dire qu'avant, la loi 1881, c'est en général, vous pouvez écrire ce que vous voulez, et dans la pratique, ça et ça, c'est interdit.
Et maintenant, ça et ça, il n'y avait pas, offense à chef de l'État, injure, diffamation.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Mais maintenant, le principe est presque inverse. C'est a priori, vous ne savez pas dans quelle situation juridique vous êtes. Et si l'État, dans son infinie mensuétude, accepte de vous dire ça, vous avez le droit de l'écrire. Donc c'est assez flippant.
Il y a eu une évolution récente. Hein, jusqu'à présent, vous savez probablement que la loi sur la presse protégeait effectivement la liberté d'expression par un ensemble de règles de procédure très strictes. Si on ne les respectait pas, le couperet tombait, c'était réglé. Il y avait notamment l'impossibilité de requalifier, quand on poursuivait un propos pour diffamatoire, impossibilité de le requalifier en injure, que ce soit en matière raciale ou pas. Eh bien désormais, ça c'est toujours valable, sauf en matière raciale, qui est quand même le cœur
de
la législation, évidemment, Pleven, Guesso et tous les autres, et avec Pleven, Guesso,
Taubira,
tous les ministres de la justice de droite, pardon, à peu près tous, hein, voilà.
En matière de diffamation raciale, en outre, on ne peut pas, en matière de diffamation, quand on dit du mal concret de quelqu'un, on peut apporter la preuve que c'est vrai, que c'est l'excuse de bonne foi. Eh bien, l'exception de vérité, pardon. Il y a la bonne foi, il y a l'exception de vérité, pardonnez-moi. Mais en matière de racisme, de diffamation raciale, on n'a plus le droit.
Alors, ça, c'est déjà une ancienne jurisprudence.
C'est une jurisprudence.
Mais par petites touches successives, on est arrivé aujourd'hui dans la loi.
C'est même la jurisprudence.
C'est une jurisprudence Parmentier. C'est la jurisprudence Caro.
Oui.
Et donc, mais par petites touches successives, aujourd'hui, depuis la loi. Je dis pas de bêtises, de 2017, en droit commun, on ne peut toujours pas requalifier une diffamation en injure, sauf en matière raciale. Si on a poursuivi pour diffamation raciale, alors qu'à l'évidence c'était qu'une injure, entre guillemets, eh bien, les juges pourront tout changer. Donc en fait, il n'y a plus aucune protection. Il y avait déjà la prescription qui avait été allongée de 3 mois à 1 an, il n'y a plus aucune protection. Non pas, d'ailleurs, je le précise, que nous soyons ici à défendre le fait qu'on puisse injurier ou diffamer quelqu'un en raison de sa race, c'est justement tout le combat de la griffe que de le contester. Mais voilà, aujourd'hui, concrètement, il devient de plus en plus facile de pouvoir poursuivre quelqu'un qui, sous prétexte de diffamation, en réalité émet un propos critique vis-à-vis notamment de l'immigration de masse ou de la dénaturation du mariage. Voilà.
Alors, nous allons changer de.
Moi, j'aurais voulu, si ça vous embête pas, rajouter, on en a parlé tout à l'heure, mais très rapidement, quelque chose au sujet de la fin du concours d'entrée à Sciences Po Paris.
Ah oui, d'accord.
Si ça ne vous embête pas.
Non, ça ne, rien ne m'embête.
Il
faut donner la parole à Jeanne ensuite, mais parler du concours d'entrée.
Non, mais Jeanne d'abord, parce que c'était
non,
sur
non,
la
non,
loi.
Non, rien à voir.
Ça nous intéresse.
Non, très rapidement, a été annoncé il y a un mois environ par l'actuel directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, le successeur de Richard Descoings, que le concours d'entrée à Sciences Po 2020 serait le dernier à partir de l'année scolaire 2020 et 2021. Il n'y aurait plus de concours d'entrée, c'est-à-dire plus d'épreuves écrites. N'auront à passer les élèves, les candidats qui veulent entrer à Sciences Po Paris, qu'une remise de dossier, donc un dossier, c'est-à-dire le dossier scolaire de tout le lycée plus une lettre de motivation, et un entretien oral, c'est-à-dire plus du tout, eh bien, cette épreuve écrite, ces épreuves écrites, qui servait un peu de témoin objectif sur les compétences intellectuelles des élèves. Ça, c'est fini. Donc en gros, déjà, Sciences Po se transforme, Sciences Po Paris se transforme en école post-bac, c'est-à-dire comme il y en a plein en France, où on entre sur entretien et sur dossier. Alors là, sur entretien et sur dossier, on nous dit d'un côté, Sciences Po se veut inclusif et intégrateur, et l'objectif est de 30% de boursiers, ils n'y sont pas encore. Alors 30% de boursiers, mais rassurez-vous, ça ne sera pas que des conventions ZEP, c'est-à-dire les conventions ZEP, les principaux lycées visés étant les lycées de ZEP, issus des banlieues ethniques. Ils nous disent, non, pas du tout, on va aussi faire des conventions vers les jeunes du monde rural, etc., etc., pour garantir une véritable mixité sociale. Une mixité sociale qui ne passera plus du tout par l'examen des compétences intellectuelles. Alors, bien entendu, la plupart des anciens, il y avait eu dans le Figaro une tribune de l'essayiste Maxime Tandonnet, qui, comme tant d'autres, est passé par Sciences Po Paris, et qui disait, Sciences Po est mort, il ne restera plus que les murs. A contrario, il y a, vous savez, tous les Sciences Po de province. Et je crois que Madame Montmirail sait de quoi je parle. Il y a tout un réseau de Sciences Po de province, et deux à part, Bordeaux et Grenoble, qui, eux, ont décidé de maintenir le concours d'entrée. Et c'est là où ils ont une carte intelligente à jouer. Donc, avis aux amateurs, pour 2020, c'est la dernière année ancienne mode. Là, vos enfants qui passeront Sciences Po Paris pourront se targuer d'y être entrés par la grande porte, et pas par un entretien d'embauche à Pôle emploi. Et à partir de 2020-2021, réfléchissez très fortement aux Sciences Po de province, qui dans beaucoup de cas ne sont pas plus mauvais que Sciences Po.
Mais est-ce qu'on pourra toujours adhérer à des syndicats d'extrême droite sans le savoir, comme Nathalie Loiseau?
Alors, en se débrouillant bien.
Ah,
non, mais c'est
essentiel.
Non, c'est un peu vieux, ça. C'est un peu vieux. Maintenant, c'est plus possible.
Ah,
c'est plus possible. Il n'y a plus que l'extrême gauche qui est droit de citer à Sciences Po Paris.
Bah,
peut-être LR.
D'où son erreur.
Aussi, il y a LR.
D'où son erreur, on peut comprendre, la pauvre.
Donc voilà, avis aux amateurs.
Très bien. Alors, je crois qu'on va changer de continent. Jeanne Smith souhaitait, et pourquoi pas, nous parler du synode Pan-Amazonie.
Eh oui, c'est Pan sur l'Amazonie. Non, voilà. C'est pas ça du tout. C'est l'Amazonie, vous le savez sans doute, mais sinon je vous l'apprends. L'Amazonie est un lieu théologique. C'est-à-dire que l'Amazonie, mais je n'invente rien, Bernard Anthony, l'Amazonie est un lieu avec ses forêts touffues, ses singes, ses fleuves et ses caïmans et ses piranhas.
Non, il n'y a pas de piranhas. Enfin, ça dépend où.
Ça dépend où.
Non, mais moi,
il y a surtout des tribus autochtones qui ne sont pas très nombreuses. Il y en a certaines qui sont hyper protégées, on n'y va pas, parce qu'elles ont décidé de vivre à l'écart de la civilisation. Et alors là,
et on les comprend.
On l'a dit en même temps.
Mais ça veut dire vivre quand même dans des conditions...
Ils ont un vieux t-shirt Coca-Cola aussi. Hein,
oui, mais bon. C'est dans des conditions quand même assez déplorables. Et je pense que le moindre d'entre nous qui a eu à aller faire sauce... se faire soigner dans un hôpital ou ailleurs, n'aimerait pas vivre dans les conditions de ces qui étaient jadis d'ailleurs extrêmement violentes de ces autochtones, où le moindre affront se réglait par des vengeances meurtrières, et où la
chez nous aussi.
Non, mais là,
c'est un peu dur.
Je ne suis pas dur du tout.
Remarquez qu'à tout prendre, je préfère aller dans un dispensaire au fin fond de l'Amazonie que chez Sanchez. Hein.
Ça, c'est l'exception qui confirme la règle, Jérôme Triomphe. Mais en l'occurrence, il faut quand même dire que ces tribus, de la grande zone amazonienne qui va du Brésil à l'Équateur, à la Guyane et partout ailleurs, elle est érigée en espèce de mythe du bon sauvage. Qui a été plus ou moins christianisé, certains l'ont été, certains non, mais c'est chez eux qu'on va chercher l'inspiration pour l'avenir de l'Église catholique, et moi je trouve ça fabuleux. Il y a eu un synode sur la famille, que l'on connaît, qui a été fait pour modifier la morale conjugale de l'Église catholique. Il y a eu un synode sur les jeunes qui a été fait pour introduire la synodalité dans l'Église, c'est-à-dire une espèce de démocratisation par la base, parce que les jeunes, on s'en foutait pas mal. Et puis maintenant, on a le synode pan-amazonien où on va parler de prêtres mariés, de femmes prêtres, ou de femmes diacres, pardon. Je vais un peu trop vite, mais c'est là qu'ils veulent aller.
De femmes médecins aussi, je suppose.
De femmes médecins aussi. Ouais. Et bien sûr, de l'écologie, parce que la planète souffre. Et l'Amazonie et son poumon, ça se discute aussi, soit dit en passant, parce que l'Amazonie est un grand réservoir d'oxygène émis par les arbres, mais comme vous le savez, la nuit, les plantes pompent
le CO2.
Bon, donc tout ça apparaît apparemment assez neutre quand même comme bilan carbone. Mais quoi qu'il en soit,
l'Amazonie
est devenue le lieu de prédilection du pape François, de Laudato aussi, d'un certain nombre de théologiens qui vont chercher leur inspiration dans le peuple, leur inspiration de développement de la théologie catholique quand même. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à Dieu à partir de la manière de croire de ces gens, et puis à partir de la théologie indienne. La théologie indienne, c'est encore mieux, parce que ce sont des chamanistes, et ce sont des gens qui pratiquent la dualité magnifique. On n'a jamais un homme sans une femme, on n'a jamais une femme sans un homme, mais on peut pas avoir des prêtres
sans prêtresse,
on peut pas avoir de liturgie
assez hétéro quand même,
sans inculturation hétéro. Mais vous avez raison,
pas chez tous les medicine men, dont certains ont droit à des formes de relations homosexuelles symboliques.
Ah ben c'est encore mieux,
symbolique,
c'est encore mieux. Là ça nous fait un lieu théologique encore
en plus de la consommation
avant-gardiste.
En plus de la consommation de champignons hallucinogènes.
Voilà, qui est très importante. Alors, j'avais lu bien sûr le document préparatoire où l'on devinait déjà tout ça, parce que on nous expliquait que la théologie indienne était ce dont il fallait s'inspirer pour l'Église et pour créer une grande humanité en communion avec la nature, avec les fleurs, les arbres, tout ça, ce sont
les serpents, les scorpions,
c'est un petit peu des dieux, hein. Il faut
les alligators,
on est en plein panthéisme,
t'as raison.
Cette théologie indienne, disons-le en passant, avait été violemment écartée du document d'Aparicida, qui est un des documents théologiques sur lequel se fonde ce prochain synode voulu par le pape François. Ça a été écarté par un certain cardinal Ratzinger. C'est assez intéressant comme histoire.
C'est organisé par qui, ce synode ?
Par l'Église catholique.
Oui, mais
du 6 au 27.
Précisez
par
quand
les
même.
Autorités du synode, par le fameux cardinal Baldisseri qui est à la tête.
Mais c'est par les autorités locales, c'est-à-dire les évêques américains
qui vont participer. Mais c'est organisé à Rome. Parce que c'est très paternaliste en réalité, par le cardinal Baldisseri et toutes les grosses têtes qui ont manipulé les synodes précédents. Ils sont en train de manipuler un nouveau synode amazonien qui a pour but de modifier de l'intérieur l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Müller, c'est Mgr Nicolas Bux, c'est le cardinal Brandt Müller aussi. Tout ce petit monde, pour une fois, il se réveille, il se remue, ils sont extrêmement durs. Brandt Müller a dit qu'on allait que ce document, l'instrumentum laboris, sur lequel on va travailler, ça veut dire l'instrument de travail, sur lequel on va fonder les discussions du mois d'octobre, eh bien c'est hérétique et cela relève de l'apostasie. Alors moi, ça me fascine qu'il y ait un grand silence radio sur ce synode pan-amazonien qui n'est rien d'autre qu'une introduction d'une pensée syncrétiste et relativiste dans la doctrine catholique. C'est fascinant, personne ne fait rien sauf quelques têtes courageuses. Je crois que là on va au devant d'un scandale beaucoup plus grand encore que tout ce qu'on a vu jusqu'ici au cours de ce pontificat. Cela me terroriserait si l'Église n'avait pas les promesses de la vie éternelle. Mais je crois qu'il faut tout bonnement s'informer. Je crois qu'il faut garder les yeux ouverts face à cette vaste fable écologique qu'on va nous jouer et qui n'a qu'un seul but, c'est de promouvoir notre bonne terre-mère, la Pachamama.
Personne n'a encore proposé de nommer Greta Thunberg archevêque. C'est déjà, oui.
C'est déjà
elle
pas mal.
Une tête, elle a une tête d'archevêque protestante.
Oui, elle est autiste.
Mais ça, elle pourrait.
Oui, elle pourrait très bien.
Alors ça, en Suède.
Oui, sans aucune difficulté.
Oui,
mais
Suède,
elle sera, fin juillet invitée à l'Assemblée nationale.
Mais pour revenir à l'Assemblée nationale française.
Mais pour revenir au docteur Sanchez.
Sanchez tout court.
Sanchez tout court. Avec le document sur l'Amazonie, alors là, il y a un petit passage passionnant où on dit que chez les Indiens autochtones, il faut quand même respecter non seulement leur médecine traditionnelle et l'introduire dans tous les hôpitaux catholiques, mais aussi leur rite de guérison.
Parce que va être joyeux, ça.
Ça aussi, dans les hôpitaux catholiques, il faudra le mettre. Donc,
parce que Indien vaut mieux quand tu l'auras.
Comme vous le dites, Bernard-Antoine.
Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière, alors bien entendu, à côté de tous les risques que vous évoquez, est-ce qu'il n'y a pas, dans une proportion que moi je n'arrive pas à estimer, une énorme condescendance?
Ah, énorme, mais bien sûr, il y a un racisme d'intellectuel.
De Tintin au Congo.
Pour le dernier synode là, sur la famille, le cardinal Casper, qui était un peu excédé de la résistance de l'épiscopat africain, leur avait dit en substance, cet épiscopat de nègre a toujours rien compris. Le propos était objectivement raciste.
Pire, il l'avait démenti sur tous les tons, jusqu'à ce qu'Edward Pentin vienne avec l'enregistrement. Non, ce synode amazonien aura lieu.
Vous voulez y aller, Jérôme Triomphe ?
Oui, c'est oui.
Du 7 au
20... pirogue, comme Tintin chez les Arumbaya.
Mais vraiment, il y a une espèce. Alors, j'imagine. Vous avez peut-être vu l'ami, le cardinal Ravasi, celui qui s'occupe de la culture dans l'église. Eh bien, lui, il a participé à des cérémonies chamaniques en tournant autour du pot de terre, du pot du feu,
se faire piquer par des fourmis rouges au venin hallucinogène.
Voilà. Voilà. Non, mais c'est consternant. Et moi, ce qui me consterne le plus, c'est l'extrême abrutissement de tous ceux qui ne disent rien. Voilà.
Ce qui veut dire, Jeanne, que vous avez donc lu ce document et qu'il n'est fait aucune référence à l'évangile du Christ ?
Et très peu, très peu. Alors ça, Monseigneur Nicolas Boucs vient de dire, c'est du darwinisme théologique, c'est-à-dire qu'on est dans l'évolution perpétuelle. Il y a eu le message du Christ, la révélation. On sait bien que avec la révélation donnée par le Christ, les évangiles, la source est fermée. Après, on développe ce qui sort de la source, mais il n'y a pas d'autres sources de connaissance de la révélation divine que celle-là. Eh bien, non, dans l'Église Nouvelle Manière, eh bien, on a une conception hégélienne de la doctrine, on a une conception hégélienne de des dogmes de la foi.
C'est d'ailleurs ce que laisse penser quand le pape dit assez souvent « je préfère le temps à l'espace », manifestement...
Oui, ce qui ne veut rien dire.
Ça ne veut strictement rien dire. Mais c'est manifestement un clin d'œil à l'évolutionnisme hégélien.
Bien sûr. Et alors donc, Boucs dit très, très, très fortement, non, on est... Là, on est face à un darwinisme doctrinal, il faut arrêter ça le plus vite possible. Enfin, qu'un instrument de travail d'un synode organisé par des cardinaux de l'Église romaine, pour des évêques de l'Église romaine, soit qualifié d'hérétique et d'apostat, c'est quand même qu'on est tombé bien bas.
Et donc, parmi l'ensemble des évêques, combien ont protesté et combien n'ont rien dit? Alors, c'est un peu comme...
Alors, beaucoup n'ont rien dit. Burke a protesté, Brandt-Müller, Müller, Nicolas Boucs. Il faudrait que je regarde s'il y en a quelques autres. Mais on les compte sur les doigts de deux mains, et encore quand on a tous ses doigts.
Et il y en a qui, au contraire, ont dit c'est merveilleux, ou
non.
Sinon leur
personne, disent personne, non, personne, non, personne. Non. Et je crois qu'il y a une grande inquiétude parmi un certain nombre de prélats, j'imagine. Mais on est dans le grand silence, dans la grande omerta.
Alors, comme il semblerait que le pape François souhaite que les évêques puissent discuter, chacun faire leur cuisine à droite, à gauche, etc. Ça, c'est le discours officiel. Peut-être que ce serait l'occasion pour les évêques, dans ce synode, de s'opposer au Saint-Père. Non. Pour mettre en pratique la praxis,
un peu, quand vous voulez.
La praxis voulue par François pourrait être...
Toujours pensé que vous étiez une orthopraxie.
Voilà, une occasion.
La synodalité, c'est très joli. Vous savez comment elle a été... La synodalité a été fortement impulsée par le synode sur les jeunes.
Et
tous les évêques se sont plaints de ce que la notion de synodalité leur ait été plaquée sans qu'ils l'aient vu venir. Ça n'était nulle part.
Sans
et tout d'un coup, sans avoir été concerté. C'était très mignon.
Elle est verticale et pas horizontale, c'est ça.
Est-ce que c'est charismatique tout ça?
Allez savoir.
C'est important, charismatique.
Allez savoir.
C'est facétieux, là. Je pense que certains auditeurs, charismatique, c'est déjà compliqué.
Alors, oui, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ah, je sais que c'est de la langue de buis. Hein, mais, oui. Donc,
le charisme, ça veut dire qu'on ne fait plus d'évangélisation. On propose le Christ, et puis tout d'un coup, ça fait effet, et après, on fait de la formation.
Moi, je connais le...
C'est pas tout à fait. Le kérigme, c'est annoncé que le Christ est mort et ressuscité.
Il y a le carigère énigmatique aussi.
Mais en soi, la prédication charismatique est plutôt à encourager, mais il faut le développer avec
dans le langage de l'épiscopat français, généralement, c'est incompréhensible.
Absolument.
Je ne
sais pas du tout ce que ça veut dire.
On comprend rien.
Il nous fallait un docteur comme Guillaume de Tulloy pour nous l'expliquer. Merci.
Les docteurs, par les temps qui courent, ne sont pas toujours recommandables.
Oui, c'est vrai.
Faire éviter d'être appelé docteur.
Un ayatollah.
Non, mais je crois que ça va encore beaucoup plus loin, puisque c'est très appuyé sur Laudato aussi. Donc, avec une vénération de la planète et avec aussi. Sous-tendant tout cela, pardon, il y a l'idée que l'Amazonie appartient à la Terre entière et qu'il faut en faire un territoire international dirigé par l'ONU. Et donc tout ça, ça va.
C'est les Indiens qui vont être contents.
C'est Bolsonaro aussi qui va être content. Ouais. Tu m'étonnes.
Mais, non, on est vraiment dans le grand n'importe quoi, mais bon, ça s'annonce, ça avance, ça se fera.
Merci, Jeanne. Écoutez. Par ailleurs, Jeanne, dans la dernière livraison de Reconquête, qui est arrivée il y a maintenant environ une semaine dans les boîtes à lettres, nous avons titré de Mao à Xi Jinping une inhumaine perfection totalitaire. Et là, vous avez publié un entretien avec quelqu'un qui connaît bien le régime chinois. Auquel j'ai assorti cette expression d'inhumaine perfection totalitaire. Pouvez-vous vous dire, il nous reste encore quand même quelques minutes, ce qui en est de cet entretien, ce vaste entretien que vous avez publié dans Reconquête.
Alors très rapidement, Steve Mosher, que j'ai donc interrogé à Rome la dernière fois que j'y étais, c'est un sociologue américain qui au départ était athée et pro-avortement et qui, avec l'aide de Jimmy Carter, avait été le premier à visiter la Chine en tant que sociologue occidental. Et là, il avait assisté à un avortement forcé, tardif, et ça l'a complètement bouleversé. Ça l'a amené peu à peu à se convertir. Maintenant, il est marié et père de 9 enfants. Et il dirige un institut de recherche sur la population. Et il continue de connaître très très bien la Chine. Il nous a parlé à Rome à ce colloque sur la fin de vie et sur la mort cérébrale. Il a parlé de la pratique chinoise de la récolte d'organes pour les greffes. Et il nous a expliqué qu'aujourd'hui, si vous avez suffisamment d'argent et que vous allez en Chine et que vous recherchez un foie, un cœur... Un foie, c'est une question un peu différente. Mais si vous recherchez un cœur ou un autre organe vital qui doit être prélevé cœur battant, mais qui, évidemment, une fois prélevé, ne peut pas continuer de faire vivre son donateur, entre guillemets, eh bien, quand vous réclamez un organe en Chine, vous l'avez maximum en 7 jours, parfois 15 jours. Mais ça veut dire qu'il y a quand même en Chine un vivier de donateurs malgré eux, comme il l'explique très bien, et qui sont probablement qui font probablement partie de ces personnes qui sont lourdement persécutées, comme la secte des Falun Gong, dont on sait qu'ils sont toujours exploités pour leurs organes. Ça veut dire qu'en gros, on leur prend leurs organes pour les transplanter, et ce faisant, on les tue. Steve Motion m'a parlé également de la société de surveillance qui s'est installée en Chine, avec les moyens informatiques modernes, couplés à l'intelligence artificielle qui permet de les exploiter, parce qu'évidemment, une masse de données, on ne pourrait rien en faire s'il n'y avait pas cette exploitation qui est possible maintenant grâce à l'intelligence artificielle. La Chine est un pays qui récolte l'ADN de toute sa population, ce qui veut dire que... Et les images rétiniennes de toute sa population, ce qui veut dire qu'en Chine, quand vous voulez sortir du radar, c'est quasiment impossible, vous êtes visible partout, vous êtes traqué partout, et si vous avez un smartphone, un téléphone plus ou moins intelligent, on sait exactement ce que vous dépensez, ce que vous pensez, etc. Et si vous traversez en dehors des clous, l'amende tombe dans les 20 secondes, parce qu'on vous aura reconnu par reconnaissance faciale et que ça part tout de suite. Donc c'est toute cette tyrannie informatique nouvelle qui est en train de transformer la Chine en camp de concentration sans barrière, parce qu'on n'en a plus besoin, qui est décrite par Steve Mosch. Ça a été un entretien tout à fait passionnant. Et je vous le recommande, c'est dans Reconquête.
Et alors, je vous rappelle, chers auditeurs, vous pouvez vous procurer ce numéro au Centre Henri et André Charlier, ou à la Griffe, puisque les locaux sont communs, 70 boulevard Saint-Germain. Voilà. Et le numéro de téléphone, en ce moment, le meilleur pour cela, c'est le 01 40 46 96 31. 01 40 46 96 31.
On rappelle peut-être juste la messe pour Vincent Lambert, à Reims, à 18h30. Vendredi.
Non, on n'a plus le temps pour des questions, il nous reste 2 minutes. J'ai peur que...
Si vous permettez que je conclue, c'était un mot d'un auditeur, justement, qui, à l'occasion d'une émission précédente, a été pour l'euthanasie de Vincent. Je lui avais écrit, et il a l'honnêteté de nous écrire en disant qu'il a changé d'avis après que je lui ai écrit. Donc je voulais le remercier, et parce que, eh bien, quand on est de bonne foi et de bonne volonté, eh bien, on sait reconnaître ses erreurs, et voilà. Et j'espère que les yeux de beaucoup s'ouvriront également par rapport à toute cette terrible affaire.
Cécile Montmirail ?
En fait, c'était pour lire cette question de l'auditeur.
Mais c'est dit, c'est fait.
Oui.
Mais je lui écrirai, à nouveau.
Oui.
Mais si vous voulez, je peux vous parler 2 secondes pour vous dire que nous avons une amie qui est une grande combattante pour son pays, la Pologne, et qui nous a dit, voilà, on ne peut pas continuer à appeler des docteurs quand ils tuent, c'est-à-dire quand ils renoncent au serment qu'ils ont prononcé, le serment d'Hippocrate. Et elle dit, il faut demander aux auditeurs de Radio Courtoisie de nous proposer un nom, quelque chose qui remplace, et parce qu'on ne peut plus les appeler docteurs. Donc voilà qui est lancé. Peut-être vous pouvez nous envoyer vos suggestions.
Doctueur, ça me paraît très bien.
Doctueur, c'est je pense la très bonne réponse. Donc nous les appelons.
D'autant qu'ils ont prononcé un serment d'Hippocrate.
Voilà.
Et ils en font des sermons même, ces hippocrites, en nous disant que nous sommes de méchants intégristes et fanatiques.
Docteur, c'est très bien.
Docteur, ouais,
c'est très
excellent.
Bien. Pourquoi chercher plus?
Ben, c'est accepté à l'unanimité par le Soviet de Radio Courtoisie.
Suprême.
Le Soviet suprême. Merci Franck à la technique. Merci chers auditeurs. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, mais en toute simplicité, cette émission sera pré-enregistrée. Parce que nous avons d'autres occupations au mois d'août, bien légitimes, je pense. Alors, à très bientôt, au mois d'août, bien sûr, et puis à nouveau au mois de septembre. Merci à tous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 17 juillet 2019, de 18h à 21h, et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.